On s'apprête à réintégrer l'OTAN, c'est-à-dire à liquider non seulement le gaullisme, mais ce qui a été la position constante de la France depuis maintenant plus de 40 ans. Je trouve ça d'une gravité considérable.
Je crois qu'ils n'ont pas compris que le monde a changé. Je respecte beaucoup le général de Gaulle et sa décision de l'époque dans le monde coupé en deux. Ce sont des passéistes.
Attendez, on ne demande pas le boycott des Jeux Olympiques à 40.
Aujourd'hui, nous sommes tous des ch'tis.
C'est par la guerre qu'on va manifester, mais par les poubelles, par les blocus, c'est la meilleure façon.
Salut à tous, bienvenue à Politique Addict, l'émission de la nouvelle génération politique. Après avoir été tous des Américains au lendemain du 11 septembre, puis tous des enfants d'immigrés après le 21 avril, nous sommes désormais tous des ch'tis, comme l'a dit le président de la Ligue de foot. Bon, pour nous, pas d'inquiétude, hein, ça devrait pas durer. Dans quelques temps, on devrait tous devenir tibétains. Mais pour certains, la plaisanterie dure depuis des années, comme notre invité de ce soir, qui est un vrai gars du Pas-de-Calais, qui vient exactement de Tinc et qui est depuis quelques mois le nouveau président du mouvement des jeunes socialistes, Antoine Détourné. Il nous dira si ça n'est pas trop dur de succéder au très médiatique Razi Hamadi. Il nous donnera son sentiment sur l'éventuel boycott des JO. Bref, un gros programme, Politique Addict numéro 6. Bonsoir Arnaud. Antoine, pourquoi je vous ai Arnaud ?
Excellent
énorme,
voilà, 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 ça c'est le problème d'être nouveau en politique. C'est pas évident. Merci beaucoup d'être là. Et c'est vrai qu'en ce moment, je disais dans cette petite intro, on entend beaucoup parler de votre région avec cette sale histoire de banderole et surtout le film Bienvenue chez les Ch'tis qui est devenu, je crois, ce week-end le film français le plus vu en salle. Vous devez être fier, non, de votre région ?
Fier de ma région, je sais pas, mais je suis content qu'on en parle positivement parce que c'est quand même une région envers laquelle il y avait un paquet de préjugés qui sont liés parfois à une certaine pauvreté, parfois à des moqueries par rapport à un accent éventuel que parfois moi je reprends sans le faire bien volontiers exprès. Mais je sais pas si je dois en être fier parce que finalement je pense que ce dont on doit être fier, c'est de ce qu'on fait. Alors naître ou habiter dans une région, je pense pas qu'on le fait forcément par choix, et je sais pas si c'est quelque chose dont on doit tirer une fierté. Maintenant, j'ai grandi là-bas, il y a beaucoup de gens que j'aime, je pense qu'il y a une culture qui vaut pas moins qu'une autre, et voilà.
Vous diriez que vous êtes fier d'être français ou pas ?
Fier d'être français ? Je
ça,
sais
ça
pas.
Ça se dit
non
pas
plus.
Trop ça à gauche, hein.
Bah, ça peut se dire. Moi, je suis plus fier d'être républicain que d'être français. Néanmoins, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis fier d'être français quand l'équipe de France gagne, par exemple, et je soutiens les Bleus. Donc, c'est toujours un peu difficile.
Quand l'équipe de France gagne. C'est oui. Terrible ça.
Non, c'est pas ce que. C'est-à-dire que moi je porte pas la nation comme quelque chose replié sur l'identité, sur une culture ancestrale, mais plutôt comme un devenir. Et donc je pense que ce qui est plus important, c'est pas d'où l'on vient, mais où on va et où on veut aller ensemble.
Alors Antoine, on va parler de beaucoup de choses ce soir. On a un programme très chargé. Alors je vous présente tout de suite hein, les ch'tis qui nous entourent, hein, parce que désormais on est tous des ch'tis. Hein. À commencer par la réalisation. De l'émission, Carole.
Bonsoir Maxime. Tant est donné.
Alors au programme ce soir, un petit quiz comme d'hab.
Un quiz d'actu comme d'habitude, j'espère que vous avez lu la presse, regardé la télé. Il va falloir donc chercher un petit peu dans vos ménages si vous avez bien retenu tout ce qui a pu se passer cette semaine dans l'actu politique.
Ok, c'est tout à l'heure avec Carole et puis une petite nouvelle ce soir qui vient nous voir à l'occasion de la semaine du développement durable qui se termine aujourd'hui même. Salut Élodie.
Bonsoir à tous.
Voilà, et Élodie avec qui donc on fera un bilan du Grenelle de l'environnement. À côté de vous, cher Antoine, la taquineuse de souris, Bérangère. Bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Alors ce soir, je vous propose juste une mise au point sur le plus gros phénomène web de l'année dernière.
Oh, j'ai une petite idée. Et enfin, celui qui a dans le cœur le soleil qu'il n'y a pas dehors. Philippe, salut.
Salut Bilout.
Salut.
Moi ce soir, je vais vous parler supporters et militants.
Excellemment bien fait cet accent. Antoine Détourné, vous avez 26 ans, c'est ça ?
27 depuis le 16 mars.
27 depuis le 16 mars, bon anniversaire. Vous êtes président du mouvement des jeunes socialistes. Vous avez succédé à Razi Hamadi en novembre 2007. En étant élu, j'ai vu ça, par 95,2% des délégués. C'est un score à la togolaise, quoi. comment c'est possible, ça? Comment vous avez fait un score pareil?
Eh ben, les choses sont assez simples, finalement, parce que quand j'ai présenté ma candidature à la présidence du mouvement, j'ai voulu que les jeunes socialistes soient rassemblés au moment où les socialistes sont quand même les grands spécialistes mondiaux du déchirement, de la division, de la guerre des chefs.
Vous êtes mauvaise
langue. Non, je pense que tout le monde le voit et je le déplore, bien sûr. Et donc, moi, ce que je sentais chez les militants du mouvement des jeunes socialistes, c'est un constat fort, se dire, voilà, nous ne voulons pas être la génération des défaites de la gauche. Et donc, un message à envoyer à nos aînés du Parti Socialiste, c'est-à-dire que, eh bien, des socialistes, on peut les mettre dans une même salle, ils peuvent être d'accord sur une personne, ça c'est accessoire, mais surtout sur une orientation, sur une volonté de travailler, et c'est ça l'essentiel, et je pense que c'est ce qui explique ce score.
Oui, on peut dire aussi que vous avez été légèrement aidé par votre prédécesseur, qui vous avait déjà promu au sein du MJS comme secrétaire national à la formation, hein, c'est ça?
C'est ça.
Et donc vous avez été un petit peu adoubé par Razi Hamadi, non?
Ben, non, je n'ai pas été adoubé par Razi Hamadi. Bien sûr, il m'a soutenu. Maintenant, c'est aussi le choix d'un courant du MJS qui m'a porté comme candidat à la présidence. Dans un premier temps, et puis l'ensemble des courants du MJS qui se sont mis d'accord sur le projet politique que je souhaitais porter pour cette organisation qui a franchi durant les deux dernières années le cap des 10 000 adhérents et qui a de nouveaux champs d'action, doit conserver aussi un peu de ce qui fait partie de son identité, mais c'est la question, c'était qu'allons-nous faire de ce nouveau cap franchi par le MJS, sur quel domaine allons-nous prendre des risques et qu'allons-nous approfondir.
Et c'est pas trop dur de lui succéder à Razi Hamadi, parce qu'il c'est vrai que c'est un personnage assez médiatique, assez charismatique.
Charismatique, oui. Bah alors c'est dur parce que ça met une forte pression, parce qu'on se dit on doit être à la hauteur, faut assurer. Mais en même temps, c'est facile parce que les chemins qu'il a ouverts, le travail qui a été fait par le mouvement des jeunes socialistes sous son mandat, la reconnaissance qu'il a obtenue dans la famille socialiste, mais pas seulement, eh bien ça ouvre le champ des possibles. Ça permet d'imaginer de nouveaux champs d'action militants, de nouveaux travail sur le fond, de nouveaux contacts. Ça permet aussi d'être plus écouté dans la société, dans la jeunesse, mais aussi chez les socialistes. Et donc, quelque part, oui, c'est plus facile.
Justement, Benoît Hamon vous trouve plus cérébral que Razi. Votre prédécesseur est plus vif, plus instinctif. Est-ce que vous pensez qu'il a raison?
C'est pas tout à fait faux. Maintenant, je pense que moi, j'aspire pas à être le clone de Razi Hamadi. Je pense pas que le MJS doit être exactement le même que sous le mandat de Razi Hamadi. On écrit l'histoire. Et l'histoire, elle s'écrit avec des personnes, des personnalités différentes. Et peut-être que bien le mouvement des jeunes socialistes a besoin de consolider peut-être une crédibilité sur le fond. Mais être cérébral, ça veut pas dire être chiant. Enfin, je l'espère, hein, autour de cette table.
Il va falloir le prouver.
Il va falloir le prouver pendant une heure.
Et puis, ça n'empêche pas aussi de vouloir s'amuser en faisant de la politique. Et ça, c'est extrêmement important.
Alors moi, j'ai une petite question, Antoine. Je profite que vous soyez à côté de moi pour vous demander, le MJS, ça sert à quoi?
Ah, à quoi ça sert le MJS? Eh bien, justement, c'est la question à laquelle on
que
a essayé de répondre. Non.
Sans
c'est la question à laquelle on a tenté de répondre à l'occasion du dernier congrès. Le MJS, à mon sens, ça sert à plusieurs choses. Premièrement, à avoir, pour les socialistes, un moyen de s'adresser à la jeunesse. Deuxièmement, c'est aussi une école de formation politique où on apprend à militer, à discuter, à débattre. Et puis aussi, le MJS, ça sert à porter un vécu. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est porter le vécu d'une génération, une génération politique qui fait plutôt le choix de la gauche. Hein. Nicolas Sarkozy a quand même été le premier président de la République élu en étant minoritaire chez les jeunes, ça n'était jamais arrivé. Une génération politique qui connaît aussi un certain nombre de mutations, la montée de la précarité, les préoccupations de plus en plus fortes sur les questions d'environnement, le retournement de la pyramide des âges. Et je pense que ce vécu, cette vision des choses, cette façon de percevoir la société, je pense que c'est ce qu'il y a de plus utile, non seulement à la famille socialiste, mais aussi à l'ensemble du jeu politique.
Moi, j'avais une petite question justement sur le MJS. Je voulais savoir s'il y avait un âge limite pour entrer au MJS et puis pour en sortir aussi.
Alors, un âge limite pour y rentrer, normalement, l'âge limite, c'est à partir de 15 ans. Bon, on n'empêche personne.
Non, non, mais
en sortir.
C'est 29 ans, ouais.
29 ans, c'est-à-dire qu'à 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, on est plus
mûr. Non, c'est le jour de ces 29 ans, eh bien, on ne peut plus être adhérent du mouvement des jeunes socialistes.
C'est fou,
ça. Et beaucoup le regrettent.
Et, ouais. Quand on est jeune dans sa tête, est-ce qu'on peut briguer un mandat en se disant « j'ai 19 ans dans ma tête »
Alors, je vais faire mon cérébral, désolé, mais c'est André Gide qui disait « j'aurais commencé ma vieillesse le jour où j'aurais cessé de m'indigner ». Donc, je pense que quand on est socialiste, en permanence, on s'indigne, et donc on reste quelque part toujours jeune dans sa tête. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à votre question.
Vous, comme la plupart des MJS, vous êtes classé, considéré un petit peu comme à la gauche du PS. On vous dit proche de Benoît Hamon ou d'Henri Emmanuelli. Lors de la primaire du PS, vous aviez, à l'élection présidentielle de 2007, vous aviez voté pour Laurent Fabius à titre personnel.
Oui.
Donc on imagine que Ségolène Royal, c'est pas vraiment votre tasse de thé.
Bah, c'était pas ma tasse de thé parce que, au fond, la question qui était posée aux militants à l'époque, c'est quel est le meilleur candidat ou la meilleure candidate pour porter le projet socialiste, surtout battre Nicolas Sarkozy. Moi, j'avais un certain nombre de doutes qui avaient été posés par rapport à la suppression de la carte scolaire, par rapport à l'encadrement militaire des délinquants, des choses qui me semblaient pas...
Dans le discours de Ségolène Royal.
Dans le discours de Ségolène Royal, tout à fait, qui était quand même la grande favorite. Hein. Et donc, moi, je pensais que Nicolas Sarkozy ferait une campagne très à droite et qu'il fallait pour le coup plutôt un candidat qui affirmait fortement des valeurs de gauche avec les propositions qui allaient avec. Et donc j'ai voté pour Laurent Fabius, mais ce qui n'a pas empêché que pendant la campagne, une fois Ségolène Royal investie, j'ai fait la campagne comme la plupart des militants du MJS, comme un malade, les meetings, les tractages, les collages, les débats. J'ai pas compté mon énergie parce qu'à partir du moment où elle était investie, où elle était la candidate de tous les socialistes, ça voulait dire qu'il fallait être à 200% derrière elle.
Alors avant de parler plus précisément du PS et de la gauche, je vous propose d'aller faire un petit tour sur la toile avec Bérangère.
Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon.
Chères auditrices, chers auditeurs, chers internautes, je dirais même chers audinautes, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique de Clic-Clic Politique. Alors, Internet, ça va vite, très vite, ça buzz, il y a du phénomène, des réseaux sociaux à tire-larigot. Voilà, moi je fais une mise au point cette semaine sur ce qui s'est passé l'année dernière pendant les présidentielles et le réseau social Second Life, comment il a évolué depuis un an. Rappelez-vous, Second Life, c'était un métavers ou univers virtuel en 3D sorti en 2003. Les résidents pouvaient créer et vendre leur création, créer un personnage aussi appelé avatar qui pouvait lui-même créer des objets. Concrètement, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur Second Life? On pouvait tout faire dans cette seconde vie, des activités marchandes les plus courantes, les boutiques de vêtements, discothèques, casinos, mais également des activités non marchandes, la solidarité internationale, des expositions artistiques et, ce qui nous intéresse, le débat politique. Second Life était un outil formidable pour promouvoir des idées politiques, surtout à l'approche des échéances électorales.
Alors juste petit sondage là autour de la table, qui est-ce qui a déjà été sur Second Life?
Moi j'ai essayé, mais franchement, j'adore l'internet, mais j'ai vraiment eu du mal à y entrer.
Philippe ?
Non, c'est
le
dit
non plus.
Non.
Moi non plus.
Moi j'ai essayé une fois, mais mon personnage est resté bloqué au plafond. Donc
c'est hyper compliqué.
Alors que pourtant, c'est vrai qu'il y a un an, on en parlait partout.
Et bien là, avec ce petit sondage, en fait, tout est dit. Effectivement, il y a eu un buzz de la part des journalistes, parce que médiatiquement, on en a beaucoup parlé, mais personne n'y est allé ou très peu. Donc ce qui est amusant, c'est de voir l'évolution. Qui s'est immiscé petit à petit dans Second Life? Quelles sont les parties qui ont pris d'assaut les QG virtuels? Et comment finalement on se rend compte que les médias passent et le courant trépasse? Donc les partis politiques, le premier parti politique à avoir intégré Second Life, c'est le Front National, qui a intégré à l'initiative du FN de la jeunesse de Moselle, au programme un QG de campagne destiné à faire connaître la candidature de Jean-Marie Le Pen. Il y avait des photos, des affiches qui tapissaient les murs de ce bureau virtuel. Et l'arrivée du parti d'extrême droite n'a pas été du goût de tout le monde, puisqu'après 8 jours de présence donc dans le jeu, virtuellement, le QG du Front National a été tagué. Ségolène Royal a été la seconde à inaugurer donc son QG, le 748e comité de soutien, le 14 janvier 2007 sur Second Life. Et alors pour ce comité qui était donc lié aussi à Désir d'avenir, l'objectif était d'organiser une véritable permanence sur Second Life avec des rencontres participatives, des distributions de badges ou de tracts et des conférences de presse. Donc le militantisme se fait partout, même sur Internet, et ils devaient, donc c'était leur propre mot, être aussi sur Second Life. Hein. Il s'agissait pour eux d'un vrai lieu d'échange, un lieu participatif par excellence, où chacun contribuait à la création de ce monde. Alors, le parti de Nicolas Sarkozy, lui, l'UMP, s'est fait attendre, osait pas trop mettre ses petites papates sur ce lieu virtuel. Et c'est Loïc Lemeur qui a lancé le
mouvement. Blogueur.
Voilà, le célèbre le blogueur, en achetant une île et en léguant la moitié de l'île, donc au QG de l'UMP. Et alors pour l'UMP, donc tous les soirs, c'était à 21h, un débat qui se déroulait autour d'un thème. Bon, alors comme tu l'as dit là, avec le petit sondage, on se rend compte qu'il y avait un fossé énorme entre ce qu'on nous racontait et les faits. C'est-à-dire qu'un débat, c'était 10-15 personnes, hein, donc des pics à 50 personnes. Donc loin du gros buzz dont on entendait parler et de ce qu'on pouvait imaginer. François Bayrou, lui aussi, a investi le Second Life. Et Dominique Voynet, enfin. Donc il y avait quelques règles qui a entouré ces bureaux de campagne virtuels. C'est donc des règles, surtout une charte qui devait lutter contre les attaques, les comportements, les discriminations. Alors ce qui est amusant, c'est de voir que les chartes étaient plus ou moins flexibles selon les QG virtuels. Par exemple, sur l'île de l'UMP, on pouvait manifester, les opposants pouvaient manifester, alors que sur Désir d'avenir, le QG de la gauche, c'était impossible. On était tout de suite bannis de l'île. Alors le bureau de campagne s'organisait...
Curieux. En même temps, à l'UMP, il n'y a jamais de manif, donc...
Ouais, bah, c'est peut-être moins violent les manifs.
Ouais, non, c'était les opposants qui venaient sur l'île. Mais au bout d'un certain temps, ils ont été obligés de créer une bulle autour de l'île parce que l'île se faisait, UMP se faisait saccager. Et ça coûte de l'argent de créer une île sur Second Life.
Il y avait des CRS sur Second Life ou pas? Parce que
Antoine, détourné de quoi? De qui? Je ne sais pas. Mais comment s'organise un bureau de campagne? Qui fait quoi? Plusieurs catégories de personnes. Donc, il y avait les invités. Donc, toutes les personnes qui sont sur Second Life et qui peuvent venir sur l'île. Les membres d'un groupe qui participent plus activement. Et les résidents qui ont, eux, ont le droit de bannir ou d'exclure quelqu'un. Alors, quel était le réel enjeu pour un parti politique d'investir Second Life? Comme je vous l'ai dit, donc, ça permettait de toucher des citoyens qui ne viendraient pas normalement dans des lieux politisés du réel ou que l'on ne retrouve pas sur les lieux d'action militante. Il donne donc la possibilité aux électeurs de rencontrer des militants, de s'exprimer sur les enjeux et sur la campagne. L'interactivité est importante par rapport aux médias traditionnels et se fait en temps réel. L'engouement n'a pas perduré, puisque comme on l'a vu aux élections municipales, tout s'est passé sur le réseau social de Facebook. On ne parlait plus de Second Life, à part le Modem qui a organisé un débat en 3D sur le thème « Bilan pour le Modem des élections municipales et discussion autour des alliances pour le second tour ». Au secours.
Ça devait être sympa, ça.
Et un débat PS sur le thème « Comment impliquer les citoyens dans la vie de leur ville », qui a réuni quelques 25 cybernautes dans la salle de réunion virtuelle.
Gros buzz.
Donc voilà, donc même l'UMP qui avait fait beaucoup parler de son île donc pendant les présidentielles n'a pas souhaité réinvestir cet espace communautaire, préférant se concentrer sur UMPnet. Alors ce désengagement, comment il s'explique? Bah ouais, voilà, c'est médiatique. Hein. Second Life a fait buzzer la vie politique pendant les présidentielles. Et une fois que la visibilité était faite, que le QG était installé, que l'élection était passée, bah il n'y avait plus vraiment de raison de rester. Donc voilà.
Merci Bérangère.
Longue vie,
c'est des
donc
villes fantômes maintenant.
Antoine Détourné, j'ai vu que vous aviez un blog, vous.
Oui, il est en ébauche.
Il est en tentative.
D'accord, alors revenons un petit peu au PS. J'avais vu que peu après, justement, je crois que c'est sur votre blog que j'ai lu ça, peu après votre élection en novembre dernier, vous disiez que le MJS allait prendre dans les prochaines semaines des initiatives très importantes pour unir la gauche. Alors perso, j'ai rien vu.
Mais... c'est parce que c'est tout l'enjeu de cet après municipal en vérité. On est en train de mettre en place ce qu'on pourrait comparer à ce que le PS a essayé de mettre en place avec les partis de gauche, c'est-à-dire un comité permanent de liaison. Et la première déclinaison de ça, par exemple, c'est l'appel qu'on a signé avec toute la jeune gauche, hein, il ne manque personne, des jeunes communistes révolutionnaires jusqu'aux jeunes radicaux de gauche, sur la question de l'appel interprofessionnel.
La SCR,
oui, les jeunes communistes révolutionnaires, sur la question de l'accord qui a été signé par rapport à la modernisation, entre guillemets, du marché du travail. Ce sera demain le cas également sur les manifestations lycéennes. Donc ce sont des choses qui se font petit à petit. Et moi, je veux qu'émerge un cadre durable de discussion entre les représentants de la jeune gauche. Et ça, quand on voit ce qui a pu se passer dans certaines élections et des élections municipales, je peux vous dire que ce n'est pas forcément facile. C'est des habitudes de travail qui se mettent en place sur la durée, des habitudes de confiance aussi. Mais je pense qu'on va y arriver.
Et vous pensez qu'un jour, vous pourrez faire alliance pour un gouvernement avec l'extrême gauche?
Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais vous prendre un exemple tout bête, mais en 71, quand François Mitterrand... créer le Parti Socialiste, parce que c'est lui quasiment qui l'a créé, faire alliance avec les communistes, mais c'était une hérésie. Ouais. Et pour autant, ils l'ont fait. Et je pense que c'était plutôt une stratégie victorieuse pour la gauche. On l'a vu en 81. Et donc, je pense qu'il ne faut pas s'interdire ce genre de choses. Pourquoi des gens qui sont de gauche, doit-on leur fermer la porte systématiquement? Si la LCR
demain
est capable...
Est-ce qu'ils ne ferment pas la porte eux-mêmes? C'est ça, le truc.
Pour le moment, nous, on les a invités, par exemple, à notre université d'été de La Rochelle. On a invité toute la gauche et notamment la LCR. Ils nous ont dit, bah, écoutez, nous, on est d'abord dans notre processus de parti anticapitaliste. On réfléchira. On est d'accord pour se battre avec vous, à vos côtés, pour s'opposer à la droite. Pour construire, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas des choses qui se font en 5 minutes. Ce n'est pas des choses qui se font en claquant des doigts. Et si demain, on arrive à convaincre la LCR sur un projet commun, sur un projet de gouvernement, moi je dis pourquoi pas.
Donc un projet révolutionnaire.
Un projet révolutionnaire, mais on peut être réformiste et révolutionnaire, vous savez.
Ah oui, oui.
Donc
vous,
ah, moi comprend... je savais pas.
mais si. Donc, on peut faire la révolution par la réforme, grosso modo.
D'accord. Mais alors vous, on comprend bien que vous êtes.
Cérébral, on le rappelle.
Oui, c'est ça, cérébral.
Mais non. Ça veut dire qu'on peut avoir des objectifs de changement à court terme pour un projet de société autre à long terme. Voilà ce que je voulais dire. C'est plus clair, d'accord, peut-être.
Pas de grand soir, mais des lendemains qui chantent, en résumé.
Voilà, c'est ça.
Et ce qu'on comprend aussi, c'est que vous, le MoDem, vous voulez pas en entendre parler, en tout cas pas dans une alliance avec la gauche. Bah, vous n'êtes pas comme Royal dans cette stratégie BBB, la Besancenot, Beauvais, Bayrou. Ça, vous en voulez pas de ça.
Mais moi, sur le MoDem, j'étais il y a quelque temps avec Kitry Delmas. Il me semble que vous l'avez reçu dans votre première émission.
Marraine.
Je le lui ai proposé de venir participer à une réunion de la Jeune Gauche et de discuter, de se mettre d'accord sur. Sur les points
essentiels. Parce qu'elle est mignonne, on le sait tous.
Mais non, on fait de la politique.
On fait de la politique. Pourquoi on fait de la politique?
Eh ben, on fait de la politique, donc on n'invite pas les gens parce qu'ils sont mignons ou ils sont ou ils sont laids.
Pourquoi on fait de la politique? Pour le pouvoir, pour les femmes, pour
Non, je voulais dire que les rapports physiques n'avaient pas forcément de lien par rapport à la logique politique.
Ça rame quand même.
C'était une question faussement ingénue. Néanmoins, je lui ai proposé. Elle me dit, ben non, mais on sait pas, nous, le MoDem, on est une nouvelle force politique, etc. Bon, tant que le MoDem est pas défini politiquement, a pas un projet, parce que moi, j'attends toujours d'avoir le projet et les valeurs concrètes du MoDem, eh bien, on peut pas travailler comme ça, parce qu'en attendant, il y a une chose qui lie très fortement les militants du MoDem. C'est la candidature de François Bayrou pour la présidentielle de 2012. Et c'est quand même pas franchement compatible avec une victoire de la gauche en 2012. Donc, voyons concrètement ce qu'ils posent sur la table, s'ils sont prêts éventuellement à renoncer une candidature de François Bayrou en 2012 pour battre la droite, là, il y aura un pas qui sera fait, et pourquoi pas le MoDem. Mais en attendant, j'attends de voir ce que peuvent être concrètement les engagements du MoDem.
On voit bien que c'est pas gagné, quoi. C'est qui pour vous votre candidat pour le prochain congrès du PS?
Et surtout pourquoi, oui?
Alors, le candidat...
Vous avez le choix.
Si c'était démago, je vous répondrais, le candidat, c'est le projet.
Voilà, allez.
Ça, c'est... Donc, on ça, oublie,
ça c'est
pas.
Fait. Maintenant, attendez, il y a combien? 12 candidats au premier secrétariat pour le moment? Bon, voilà, c'est pas sérieux.
Ou alors une shortlist de deux.
Une shortlist de deux? Bon, alors, je vais vous faire...
Julien Drey, par exemple, non?
Julien Drey.
Ça veut dire non. Félicitations, ensuite.
Mais il y a des gens que j'aime bien, moi. Un type comme Cambadélis, qui pour autant partage pas forcément mes options politiques. Moi, je pense que ça peut être un mec intéressant, tout comme Barcelone ou Aubry. Delanoé aussi. Enfin, moi je suis pas fermé.
Du moment que c'est pas Royal.
Non, arrêtez, parce qu'en plus, je pense que ce qu'elle a proposé sur son site internet il y a quelques jours, c'est quelque chose de très intéressant.
Une nouvelle démarche participative.
Oui, voilà,
c'est ça.
Nouvelle démarche participative, 10 grandes questions qui sont posées aux militants socialistes sur comment on s'oppose à la droite, comment on crée un projet de société. Voilà, une démarche participative, une démarche de discussion, ça c'est intéressant. Si c'est ça que porte comme projet Ségolène Royal pour le Parti Socialiste, ça me dérange pas. Moi, je suis dans un parti laïque, hein, je brûle pas des idoles, j'admire pas des égéries, enfin voilà, parfois peut-être un peu trop rationnel, mais je pense que ce qui compte quand même, c'est la dynamique collective, et je pense que la personne qui sera élue premier secrétaire du Parti Socialiste, ce sera la personne qui sera la mieux à même de porter cette dynamique collective. Ouais, mais... Et pour le moment,
ça
se voit pas
votre candidat en 2012?
Pas forcément. S'il faut que la personne qui est élue se prenne 4 ans de droite dans la face avec des attaques très dures, j'ai peur qu'en 2012, elle finisse en charpie. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément elle, un bon choix.
Ouais, mais ne pas choisir son camp, c'est bien joli. C'est une position qu'on peut avoir peut-être à nos âges. On essaie de combiner un peu tout. Mais après, il faut quand même choisir son camp en politique. On ne peut pas aimer tout le monde.
Je suis socialiste.
C'est un peu compliqué après de faire le grand écart.
Mais quel grand écart?
Entre tous, c'est des courants très différents quand même au sein du Parti
Socialiste. Non, mais moi, alors attendez. Moi, je suis président du mouvement des jeunes socialistes. Chez les jeunes socialistes, il y a toutes les sensibilités possibles et imaginables du Parti Socialiste. Il y en a même qui n'existent pas au Parti Socialiste. On est aussi créatifs que nos aînés, même plus.
Oh là là, donc, vous êtes mal.
Donc moi, je vais pas faire campagne pour un tel ou une telle. Par ailleurs, moi, j'ai quelque part une obligation de neutralité parce que les jeunes de tel courant, ils viendront me voir en me disant « Mais attends, Antoine, tu as été élu pour développer cette organisation, pour la faire bosser. On est autonome. Et moi, je vais faire en sorte aussi que le mouvement des jeunes socialistes, en dépit des turbulences qu'il va y avoir dans la famille socialiste, puisse continuer à se développer et de faire que bah oui dans ce pays il y a de plus en plus de jeunes socialistes et donc ces gens-là viendront me voir et me diraient eh ben Antoine t'as choisi tel candidat et le MGS est en train de devenir la boutique de un tel ou une telle et ils auraient raison donc alors moi si, je veux éviter ça.
Si vous pouvez pas parler du futur, vous pouvez peut-être nous parler un peu du passé. Vous êtes au PS et au MJS depuis 2002, au lendemain de l'accession de Le Pen au second tour des présidentielles. Vous avez pris votre carte immédiatement. Et depuis 2002, je crois, on parle de reconstruction du PS. C'est un peu le leitmotiv, ça revient tout le temps. Pourquoi le PS français n'arrive pas à faire sa mue comme d'autres PS européens ont réussi à le faire?
Mais en fait, c'est pas une question sur le passé. Je pense que c'est plus une question sur l'avenir que vous posez. Mais la reconstruction, la refondation. Moi, j'ai vu des discours qui datent de 93 qui disaient la même chose que ce qui est dit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je pense que le projet socialiste, ce qui correspondait à mettre en place un certain nombre de protections, en particulier pour les plus modestes, se retrouve confronté à un certain nombre de difficultés liées à la mondialisation, liées à la montée des précarités, à un nouveau monde qui émerge avec de nouvelles puissances. Bon, et aujourd'hui, ce projet socialiste, en France, mais aussi ailleurs, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, se trouve mis en difficulté. Et je pense qu'il y aura des reconstructions, il y aura des refondations, tant que nous n'aurons pas trouvé les réponses à ces grandes questions. Et la question de base, c'est comment, grosso modo, protéger les plus modestes dans une société où ils sont de plus en plus mis en difficulté. Ça, c'est l'essentiel. Et c'est, je pense que avant de parler de mue social-démocrate ou je sais pas quoi, enfin on est tous sociodémocrates au PS, je pense qu'il n'y a personne qui veut socialiser tous les moyens de production et installer une espèce d'union soviétique ou de dictature du prolétariat.
Enfin, vos copains de la LCR, ils y pensent sérieusement.
Hein, oui, enfin bon, moi, c'est pas mon choix. Je crois que c'est plus dans leur statut, par ailleurs, la dictature du prolétariat. Depuis une dizaine d'années, mais j'en suis quasiment sûr à 95%. Et donc, je pense que c'est la question à laquelle il faut répondre.
En tout cas, il y a encore le révolutionnaire dans leur nom. Hein,
ça. Oui, mais pourquoi pas? Enfin, ils vont changer de nom bientôt. Mais moi, je pense que je ne suis pas satisfait de la société qu'il y a aujourd'hui. Je ne suis pas satisfait des inégalités. Je suis en colère contre les injustices. Et je pense que tant que ce sentiment existera, eh bien, il y aura des socialistes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce sentiment. Maintenant, il faut trouver les moyens d'y répondre concrètement. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, quand on parlait de la finance, de l'économie, on nous disait, mais « Ah, le monde a changé, il faut s'adapter ». On voit aujourd'hui ce que ça a donné, l'éclatement de la bulle financière. Et moi, je pense que être socialiste, c'est voir, certes, comment le monde a changé, mais surtout voir comment nous voulons le changer et comment il va changer. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante.
Bon, Philippe, j'ai un peu trop entendu parler du PS, là. Et avant de faire notre quiz politique de la semaine, j'ai une furieuse envie de faire une pause chiracienne. Est-ce que tu aurais quelque chose pour moi?
Oui, j'ai quelque chose. Alors, on est entre Jones, donc on passe des mix. Celui-ci est DJ Zebra, bref, un des meilleurs, et mélange une chanson de Bobby Feller bien connue, I Fought the Law, ainsi que Chirac en prison pour Chirac Fought the Law.
C'est une obsession, elle ne pense qu'à ça, elle n'endort plus la nuit. J'en ai plus cassé. C'est une vraie maladie.
c'était quoi déjà ? Je me souviens plus que c'était.
C'était Chirac, faute de l'eau, de Zebra. Voilà.
Bon, et bien, c'est l'heure maintenant de tester nos connaissances sur l'actualité de la semaine avec le quiz de Carole.
Une somme totale de 118 000 francs, 1 million.
Et on recommence l'actu comme chaque semaine avec quelques questions. Et comme d'habitude, c'est Thomas qui note les notes.
Je note.
Tu notes.
Je compte les points.
Tu essaies de pas oublier cette fois. Ouais. Et donc le but,
oui maman.
Le but, c'est de répondre aux questions hein, forcément et d'être assez rapide. Alors c'est parti, première question. Petite musique d'ambiance.
Vous jouez Antoine, hein, attention.
Tout le monde joue. Hein. Dans la course à la candidature au poste du premier secrétaire du PS pour succéder à François Hollande, qui est la dernière candidate déclarée ?
Mmh. Ah, la dernière candidate très connue.
Un indice branchu. Peut-être ? Allez, un indice. Oui, qui a dit ?
Le
oui, bravo.
Un point
Antoine. Ancienne garde des Sceaux. Question numéro 2. À qui Bertrand Delanoë a dit « Vous êtes sectaire, mais moins que les autres ».
Vous êtes sectaire, mais moins que les autres.
C'est lui dans les confidentiels de
Sarkozy.
Ouais.
Kouchner.
Non, là, je pense que le truc, c'est sectaire. Non.
Vous êtes sectaire, mais
Panafieux.
Moins...
Panafieux.
Presque. Proche de Panafieux.
Proche de Panafieux.
L'amour.
Lelouch.
Goujon.
Pierre-Yves Bournazel.
Oulala.
Qu'est-ce que tu vas nous chercher ?
L'ex-porte-parole de Françoise de Panafieux.
Si, un des bobos de droite.
Un des bobos de droite, oui, qui a signé un article dans Le Monde.
Bon, bah, un point pour Carole.
Exact. Avec Marie-Laure.
Alors, deux jeunes lions socialistes se sont alliés en vue du prochain congrès du PS. On a pu lire dans les colonnes du Parisien que l'un des dirigeants socialistes a parlé d'un mariage entre la carpe et le lapin. De qui s'agit-il ? La carpe et le lapin.
Ça
peut vous faire penser à quelqu'un ?
La carpe et le lapin.
Qui on pourrait traiter de carpe et de lapin au Parti Socialiste ?
Ah, c'est une même personne ?
Non, c'est deux personnes, deux
jeunes. Alors lapin, Strauss-Kahn.
Je sais de qui il parle. Moscovici. La carpe et du lapin.
Alors, oui, Moscovici. Et
qui s'allie
avec quelqu'un d'autre ?
Et Fabius ou
Barcelone ? Non, Montebourg.
Et Montebourg.
Exactement.
Montebourg.
Ouais. Bon, voilà, c'est pour Bérangère. Non, Bérangère. Bérangère, elle a dit.
Un partout.
À quelle manifestation a participé Carla Bruni-Sarkozy hier, dimanche, après-midi ?
Bah, soutien à Ingrid Betancourt.
Ah oui. Ouais. C'était une question de rapidité.
Mais oui.
Ouais. Rapidité. Elodie, je ne t'entends pas.
Bah non, parce que je ne connais pas tout ça, moi.
Est-ce qu'il y avait du monde à cette...
Alors, entre 10 000 et 40 000 personnes, ça dépend des sources, selon la police ou selon l'organisation.
10 000, 40 000, c'est quand même...
Ouais, c'est énorme, mais à chaque fois, c'est ça. Donc, à vous d'aller voir en participant à cette marche. C'était partout en France, hein, c'est des chiffres, bien sûr, cumulés. Quelle figure politique a été visée lors de la profanation des 148 tombes ?
Rachida Dati.
Effectivement, dans un carré musulman du cimetière militaire d'Albin Saint-Nazaire.
Yes !
Effectivement, elle a été visée. Citez-moi au moins un des noms ou fonctions des personnes interpellées ce matin pour avoir voulu perturber le trajet de la flamme olympique.
Il y avait un vert.
Conseiller régional.
Conseiller vert de Paris.
Yann Versling.
Non,
vice-président du conseil régional. Ouais.
Vice-présidente Ferry. Vert du conseil régional d'Île-de-France, Mireille Ferry, a été interpellée parce qu'elle était munie d'un extincteur.
mais vous savez,
la c'est louche. De l'AFP.
Et vous savez où est passé Robert Ménard ou pas ? On n'en a pas entendu parler de la journée.
Bah, je pense qu'il a bien coordonné.
Peut-être mis la sourdine.
Moi j'ai vu le cortège de la flamme olympique cet après-midi et c'était impressionnant, c'était un défilé de camions de police.
C'était
3000 policiers, il y avait sur place. Également, il y a eu Sylvain Garel, un autre élu écologiste du 18e arrondissement qui a été stoppé par les services de sécurité parce qu'il tentait donc de s'approcher de la flamme olympique.
Vous pensez qu'on en a trop fait là-dessus ?
Sur la flamme olympique.
Ouais.
Non, je pense que...
C'était quoi la bonne méthode finalement ?
Bah, je pense que la bonne méthode, c'était déjà de se poser la question un petit peu avant, malheureusement. Parce qu'on a laissé le CIO faire totalement ce qu'il veut, alors que le CIO, c'est quand même une institution extrêmement peu démocratique qui a été présidée pendant des années par un ministre de Franco. Donc c'est dire quand même les mœurs qui ont cours au sein du CIO. Alors maintenant, on se retrouve dans une situation complètement ingérable, entre boycott, pas boycott, participation à certaines cérémonies ou pas. Et je pense que la seule chose qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est faire des pressions politiques très très fortes sur la Chine, sur la question notamment des droits de l'homme, et ne pas les lâcher. Je pense qu'aujourd'hui, je pense pas que ça serve à grand chose de boycotter les JO parce que de toute façon, il y a des nations qui iront, il y a des enjeux financiers extrêmement forts, mais maintenir la pression sur la question des droits de l'homme en Chine, c'est quelque chose d'important.
Et donc là encore, vous partagez pas l'avis de Ségolène Royal qui, elle, est pour le boycott intégral.
Mais ça arrive de pas être d'accord avec Ségolène Royal, même si sur 90% des thèmes, quoi, je suis d'accord avec elle.
Allez, dernière question pour départager Bérangère et Antoine qui sont à 3 partout.
Quelle personnalité politique a dit à propos du remaniement de l'UMP qu'il aurait préféré un électrochoc ?
Estrosi ?
Faudi.
Non.
Villepin ?
Ouais, bien joué.
Oh là là !
Ouais.
Bravo, victoire de Bérangère.
Bravo.
Bravo. Effectivement, il a dit l'UMP n'existe pas suffisamment depuis qu'il n'y a pas à sa tête de président élu par l'ensemble des militants. Dans Dimanche Plus. Voilà, et j'aimerais vous demander, du coup, Antoine Détourné, qu'est-ce que vous avez pensé de ce remaniement politique ?
Nicolas Sarkozy a construit un parti, grosso modo, par la menace et pas par la démocratie. Bon, certes, il a été élu par les militants. Néanmoins, il n'y a pas eu véritablement d'autres candidats. On sait ce qui s'est passé entre les Chiraciens et les Sarkozystes entre 2002 et 2007. Donc voilà, il récolte ce qu'il a semé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est affaibli, eh bien, les fissures se font jour de toutes parts. Et ce n'est pas étonnant qu'il essaye de colmater un peu les brèches en mettant des fidèles à lui, mais ça n'empêchera pas le mouvement de fond qui est celui d'une division de plus en plus grande de la droite.
Alors, un des thèmes qui n'a pas été abordé dans Squeeze et qui a été un peu étouffé la semaine dernière par la forte actualité internationale, c'est la semaine du développement durable qui s'est achevée aujourd'hui. On avait envie d'en faire un petit bilan avec une jeune fille qui travaille dans le domaine et qui revient tout juste du Pérou, c'est Elodie.
Bonsoir à tous. Donc,
salut collègue.
S'il te plaît Thomas, mon prénom c'est Elodie. Donc je vais vous faire effectivement un petit bilan développement durable en reprenant quelques informations sur le Grenelle de l'environnement dont vous avez tous entendu parler. Et
beaucoup.
Puis une petite actu, oui beaucoup, voire même un peu trop parfois, petite actu sur ce qui s'est passé cette semaine au sujet du développement durable. Alors on voit et on entend à la télé quand même pas mal parler de militants qui font du bruit sur le sujet, les associations écolo en particulier, hein, ouais. WWF, Fondation Nicolas Hulot, etc. Je voudrais juste rappeler, avant d'avancer sur le sujet, que le développement durable, c'est pas juste, on va sauver la nature et c'est pas juste un problème d'environnement ou d'écologie, qu'on est sur des thématiques des problématiques sociales et économiques, et que le gros défi du développement durable aujourd'hui, c'est justement de s'attaquer aux trois en même temps, si possible, et c'est ce qui en fera sa force si ça devient vraiment un levier d'action. Pour revenir donc un peu sur le développement durable et le Grenelle de l'environnement en particulier, juste vous rappeler que donc fin de l'année 2005, il y a eu 5 mois de concertation entre divers acteurs de la société civile et de l'État français. Donc
ouais, ça a été un gros barnum. Hein.
Ouais, ça a été un gros barnum effectivement, mais c'était aussi un moment historique par justement le fait que ça regroupait autant d'acteurs.
Ouais. Il y avait qui alors ?
Alors il y avait des associations écolo, il y avait le MEDEF, il y avait des représentants de l'État, des ministères, des collectivités locales, des syndicats et beaucoup d'associations en tout genre qui s'approprient le sujet.
Le Parti Socialiste, vous étiez représenté
au Grenelle de l'environnement ?
Ouais. Je pense que vous avez dû être consulté, comme les Verts. Comme
ouais,
mais pas directement.
Non, d'accord. Non, pas directement représenté. Donc, on a traité évidemment de problèmes divers, hein, l'énergie, les OGM, les déchets, la biodiversité, l'énergie nucléaire. Et finalement, après donc 5 mois de discussion, on est arrivé le jeudi 25 octobre 2007 à déboucher sur une feuille de route qui a permis un petit peu de dégager les grandes actions, les grandes orientations qu'on pourra à l'avenir effectivement traduire en actions concrètes. Alors depuis lors, que s'est-il passé ? Parce qu'on en a beaucoup parlé et puis on n'a plus rien entendu pendant plusieurs mois. Hein. On en a encore moins entendu parler parce qu'effectivement il y a eu dernièrement les élections qui ont occupé beaucoup d'espace, hein, donc voilà.
Il y a un truc dont on a entendu parler, c'est le bonus-malus quand même.
Oui, le bonus-malus, on a entendu parler, vous avez vu en ce moment dans le métro les campagnes sur recyclage des déchets, vous jetez 3 papiers, ça économise 1 demi-baril de pétrole, alors c'est hyper simplifié, c'est de la communication à gogo. On est aujourd'hui en train de remettre en question l'efficacité de cette com, hein, parce qu'on est un peu en train de tout, on est en train de mettre le focus sur le citoyen et le consommateur. Et à côté de ça, on ne fait pas grand-chose pour que les entreprises, par exemple, prennent conscience du sujet et des problématiques.
Ouais.
Donc c'est
on demande beaucoup d'efforts aux citoyens, mais pas beaucoup aux entreprises.
Exactement. Et en plus, on donne pas forcément l'État, donne pas forcément les moyens aux citoyens de changer leur comportement.
Oui, mais avec cette prise de conscience, on a aussi l'impression que du coup, les citoyens sont plus à même de juger les entreprises et sélectionnent en fait ce qu'elles consomment en fonction de qui fournit quoi.
Alors effectivement, c'est l'objectif. Mais là, on est sur des entreprises qui produisent des produits de consommation. On n'est pas sur ceux qui produisent du ciment, ceux qui fournissent l'eau. On peut parler collectivités locales, mais pas tant que ça. Donc, le Grenelle de l'environnement, on est arrivé sur une feuille de route qui aujourd'hui devrait se traduire en actions concrètes. Alors, Monsieur Borloo, donc qui est le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, nous a récemment appris qu'il avait repris les choses en main et qu'il allait mettre en place un programme avant la fin du premier semestre 2008. Ouais. Donc, on attend de voir ça. Et puis, de manière plus concrète, le ministère, cette semaine, donc, a mis en place un certain nombre d'événements, a financé un certain nombre d'événements. Et comme je vous disais il y a un instant, tous les événements quasiment étaient destinés à sensibiliser le consommateur, le citoyen, avec le slogan « passage à l'acte », c'est-à-dire on arrête de parler, on arrête de brasser de l'air et on essaie de faire des choses concrètes. Alors on vous expliquait dans les salons, moi j'ai participé à divers événements, comment trier vos déchets, comment fabriquer de l'habitat écolo, comment partir en vacances de manière responsable, etc.
C'est pas inutile tout ça, non ?
Ah non, c'est pas inutile du tout. Non, il y a des choses très concrètes et très intéressantes, effectivement. Et puis pour ceux qui n'ont pas participé à ces salons ou qui n'ont pas eu le temps, juste vous faire une petite annonce. La semaine prochaine, il y a le salon Planète Durable qui aura lieu du 10 au 14 avril, je crois que c'est au Parc des Expos à Versailles, donc sur l'éco-consommation, et le salon du commerce équitable le 25 et 26 avril. Donc,
allez-y.
Voilà, allez-y, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes et ça concerne effectivement tout le monde aujourd'hui. C'est à nous tous de mettre notre petit grain de sel là-dedans. Moi, je voudrais simplement peut-être poser une petite question à Antoine, petite question piège des gens qui aiment bien embêter comme ça. Vous êtes venu comment ce soir jusqu'ici ?
En transport en commun.
En transport en commun, très bien.
Bien joué. Et à pied, parce que
très bien. C'est une bonne réponse.
N'ayant pas de budget, nous ne lui avons pas envoyé de taxi.
Non, mais j'ai pas de voiture, donc.
C'est une bonne réponse.
On n'entend pas beaucoup la gauche quand même sur cette histoire du Grenelle de l'environnement. Vous soutenez le projet ou pas ?
Mais le Grenelle de l'environnement en soi, c'était pas une mauvaise idée. Il faut être honnête, mettre tout le monde autour de la table pour dire voilà, on va essayer de changer notre modèle de développement. Maintenant, concrètement, je pense qu'il y a assez peu de choses qui changent. Par exemple, sur les OGM, le peu d'avancées qu'il y avait pu y avoir sont remis en cause par les parlementaires de droite. Sur les questions de transport en commun, il y a quand même un certain nombre de projets qui risquent d'être remis en cause fortement avec le plan de rigueur qu'il ne faut pas appeler de plan de rigueur. Donc, moi, je pense que ce sur quoi il faut juger le Grenelle de l'environnement, au-delà de la discussion qui est nécessaire et qui a permis de mettre ces questions sur le devant de la scène, c'est sur les actes. Et pour l'instant, je ne les vois pas concrètement.
Enfin, sur les OGM, excusez-moi, mais oui. on a quand même réussi à faire en sorte à ce que le Mans Auto passe pas et que pour le moment, on attend des résultats scientifiques pour pouvoir l'accepter. Quoi. Donc, c'est quand même pas rien.
Oui, mais j'attends de voir ce que donnera la loi sur les OGM qui est en discussion au Parlement. Et les sénateurs UMP ont proposé la liberté de cultiver les OGM, ce qui pose un problème en termes de dissémination de ces OGM et ce qui n'était pas du tout l'esprit du Grenelle de l'environnement.
Ouais. Oui, tout à fait.
Alors, autre sujet dans l'actualité cette semaine dont on a beaucoup parlé, et on a entendu Bernard Kouchner dans le générique réagir aux propos de ceux qui critiquent donc le renforcement de nos troupes en Afghanistan. Il disait « ce sont des passéistes, on ne construit pas une politique étrangère sur l'anti-américanisme ». Est-ce que vous vous sentez anti-américain ?
Ah mais alors pas du tout, et je me sens d'autant plus à l'aise avec ça que je pense que c'est pas.
Mon beau-frère est américain.
Non, alors là, non.
J'ai un oncle en Amérique.
Non, pas du tout.
Mais je mange du oncle Vest régulièrement.
C'est pas. C'est pas un service à rendre aux États-Unis par ailleurs que de les accompagner dans cette folie qui est leur interprétation de la guerre contre le terrorisme. Parce que très clairement, ce que fait George Bush, et il l'a dit au sommet de l'OTAN, il a dit je suis d'accord avec le président Sarkozy, peu importe le temps, peu importe le coût. Ouais. Il faut finir cette guerre en Afghanistan. Il disait la même chose à propos de la guerre en Irak. Donc je ne pense pas que c'est être les amis des États-Unis que de les accompagner dans cette logique-là. Maintenant, sur la question de l'Afghanistan, moi je ne suis pas pour qu'on envoie 1000 jeunes Français se battre.
800.
Oui, ce sera vraisemblablement un petit peu plus. Ouais. Se battre, tuer aussi, parce que c'est aussi leur mission. Quand on envoie des forces spéciales dans certaines zones, c'est aussi pour ça qu'ils y vont. Ou se faire tuer, alors que le processus démocratique, autant que le processus de développement économique, n'est pas fixé. Et puis, dernière chose, vouloir rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN sans qu'on sache aujourd'hui ce à quoi sert cette organisation. C'est quand même un gros problème. Aujourd'hui, l'OTAN est utilisée par les faucons de Washington comme un instrument de choc des civilisations. Ben, moi, je suis désolé, ce n'est pas ma vision de la mondialisation. Et c'est pour ça que je pense que les États-Unis méritent mieux et pourraient être plus utiles au monde en participant à l'OTAN pour en faire une force de maintien de la paix plutôt qu'une force qui nourrit le choc des civilisations.
En même temps, on pourrait répondre d'une part que les Français sont déjà en Afghanistan. Il y a eu un reportage qui a été largement regardé, je crois, sur France 2 là-dessus. Et d'autre part, peut-être qu'on peut espérer qu'avec les élections aux États-Unis, il y ait moins de faucons dans les postes clés.
Ah ça, on peut l'espérer. Je vais vous raconter une anecdote. Je prenais le train vendredi et je suis tombé sur un jeune soldat français qui revenait d'Afghanistan. Et je lui ai posé quelques questions sur ce que c'était là-bas de servir la France hein, sous les drapeaux. Eh bien, il me disait que c'était se poser beaucoup de questions, pas savoir forcément ce à quoi on sert, et surtout l'impression de remplir un puits sans fond. Et tant qu'on sera dans une situation politique comme celle-là en Afghanistan, et que les troupes françaises qui y sont présentes, pour lesquelles moi je souhaite qu'elles restent, mais pour autant il faut qu'elles soient au service d'un projet politique. Et le projet politique et économique n'est absolument pas fixé. Et le seul projet économique, c'est cultiver des pavots.
Pour l'instant, le projet politique, c'est de former les troupes afghanes pour qu'elles puissent se défendre contre les talibans.
D'accord, mais sauf que je ne sais pas si on rend un grand service aux troupes afghanes en faisant quelque part une guerre à leur place, parce que finalement c'est des Afghans qui tirent sur des Afghans, parce que les talibans c'est aussi des Afghans.
Oui, bien sûr.
Et donc on ne permet pas de faire émerger les conditions d'un débat démocratique qui permettent de sortir ce pays de la situation dans laquelle il est.
Je suis pas sûr que les talibans souhaitent un débat démocratique hein, maintenant.
Mais oui, mais je pense que ils auraient intérêt peut-être si on organisait mieux les choses à ce qu'il y ait un débat démocratique, parce que il y a pas de raison que dans ce pays le pouvoir se fasse la répartition du pouvoir se fasse par les armes, alors que dans beaucoup d'autres pays on y arrive par les urnes.
Alors revenons un peu en France maintenant pour un sujet qui j'imagine doit vous interpeller en tant que patron des MJS, les grèves dans les lycées, beaucoup de bruit ces derniers temps, vous êtes vous-même allé manifester, j'ai vu que vous étiez assez remonté contre le projet.
Bah oui, moi je suis allé manifester et j'y retournerai demain, parce que ce qui se passe dans l'éducation nationale, c'est quand même une affaire extrêmement sérieuse. On a supprimé grosso modo, suivant les estimations, entre 50 et 70 000 postes dans l'éducation nationale depuis 2002. Moi, j'appelle ça une saignée. Et quelque part, le projet de la droite sur l'éducation nationale, il est extrêmement cohérent. Alléger fortement les postes présents dans les établissements scolaires, donner plus de responsabilités aux chefs d'établissements scolaires, sauf que on va leur demander de gérer la pénurie d'enseignants, de gérer la pénurie de surveillants, etc. etc. Et ça ne permet pas de construire l'éducation de manière globale et d'assurer l'avenir. Maintenant, quand on voit les perspectives qui sont quand même assez sombres pour les jeunes, sans être pessimiste ou fataliste, ben on se dit qu'il ne reste plus que l'éducation, quelque part, pour s'en sortir. Alors si on dégrade les conditions d'éducation, il ne faut pas s'étonner que les jeunes se mobilisent.
Ouais, moi je suis allé voir quand même pour m'enseigner là-dessus, parce qu'on dit tout le temps qu'il y a une grande saignée du nombre d'enseignants, comme vous venez de le dire, et je regardais dans les chiffres de l'éducation nationale, le nombre d'élèves dans le premier et second degré, donc il y a un peu plus de 12 millions d'élèves, d'enseignants il y en a 880 000, ça fait moins de 14 enfants par enseignant, ça paraît pas scandaleux quand on le dit comme ça, et surtout quand on sait que l'éducation nationale est le premier poste budgétaire de l'État français.
Mmh. Mais écoutez, juste pour la comparaison, mais envoyer 800 soldats ou 1000 soldats en Afghanistan, c'est 500 millions d'euros. C'est à peu près le coût des 11 000 postes d'enseignants qui seront supprimés à la prochaine rentrée. C'est juste pour évaluer les priorités. Mais je suis désolé, mais c'est aussi des questions de priorité politique. Maintenant, je pense que 14 enfants par 14 élèves par classe, en effet, en moyenne, ça paraît normal. Sauf que concrètement, vu le nombre d'heures de cours, eh bien, ça amène à ce qu'il y ait des classes avec plus de 40 élèves et de plus en plus, malheureusement, de moins en moins d'adultes présents dans les établissements scolaires. Et on assiste ici ou là à une explosion de la violence. Donc voilà, regardons les choses concrètement.
Alors, on parle du budget de l'État. On en a beaucoup parlé aussi la semaine dernière avec ce plan d'économie décidé par Sarkozy qui annonce un plan d'économie de 7 milliards d'euros. Le ministre du budget, lui, aimerait qu'il y en ait 5 de plus, donc ça ferait 12 milliards. Quand la France, elle, dépense chaque année plus de 50 milliards en trop dans son budget, c'est-à-dire on déborde tous les ans de 50 milliards. Et face à ça, face aux réformes promises par le gouvernement, on entend le PS crier au plan de rigueur. Est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable finalement de demander à ce que l'on réduise bien davantage les dépenses ?
Alors, moi je pense que les dépenses... Je ne suis pas un fan de la dépense publique absolue et intégriste là-dessus. Je pense que les dépenses publiques, elles doivent répondre à des besoins sociaux et des besoins décidés par les représentants du peuple. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est qu'on a un déficit chaque année. Maintenant, l'État, ça ne fonctionne pas comme un ménage. Un ménage, il peut tomber au chômage, il peut y avoir une personne qui tombe au chômage, connaître des accidents de la vie. L'État, quand même, il récolte des impôts assez souvent. Quand il emprunte, ça lui coûte pas cher, etc. etc. Et je pense que, quelque part, si il y a un plan de rigueur, c'est parce qu'il y a notamment le pacte de stabilité et de croissance qui limite le déficit des États. Et je pense qu'en période de baisse du pouvoir d'achat, en période de baisse de la consommation, en période de recul de l'investissement des entreprises, c'est une catastrophe parce qu'on va plomber l'économie.
Il ne faut pas chercher du tout à faire des économies.
Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à faire des économies. Je pense qu'on aurait besoin de dépenses publiques pour s'adapter à une conjoncture qui est déprimée. Et je pense que faire un plan de rigueur dans la période, ce sera très, très, très mauvais pour l'économie. Alors ça permettra peut-être d'afficher un déficit de l'État moindre, mais je pense que sur la croissance, ce sera une catastrophe.
Pourquoi est-ce que le mot rigueur, il est tabou comme ça dans la classe politique ? Parce que même à droite, on n'ose pas le dire.
C'est sûr. Alors on a parlé d'ajustement, on a parlé de suppression des dépenses inutiles. Moi, je n'ai pas de tabou à parler de plan de rigueur. La preuve.
Qui dit rigueur dit aussi raisonnable.
Mais non, c'est pas austérité. Enfin voilà, c'est la rigueur, c'est le fait de supprimer des dépenses que l'on n'ose pas assumer devant les Français. Voilà, quand Nicolas Sarkozy dit on va relever les plafonds financiers pour que des gens puissent bénéficier d'HLM alors qu'il y a une crise du logement très très forte dans ce pays, eh bien il n'assume pas le fait que oui, il sera plus dur pour certains ménages modestes de trouver des logements. Eh bien je pense que le courage politique, c'est d'assumer ce genre de choses.
Il y a un autre truc dont vous parlez beaucoup généralement, c'est le paquet fiscal. Mmh. Souvent on revient là-dessus. Et puis et vous dites oui, finalement le gouvernement a dépensé 15 milliards dès qu'ils sont arrivés. Mmh. Sauf que quand on regarde dans le détail du paquet fiscal, finalement il y a beaucoup de choses qui sont pas spécialement pour les plus riches, quoi.
Ben oui, mais c'est pas pour les plus pauvres, hein, ça c'est sûr. Les heures supplémentaires, si vous parlez des heures supplémentaires, grosso
par
modo,
exemple, ouais.
La défiscalisation des heures supplémentaires, ça a surtout bénéficié à une partie des chefs d'entreprise qui en avaient peut-être besoin, mais j'en suis pas convaincu parce que je pense ils avaient plutôt besoin d'investissement. Mais c'est des heures supplémentaires qui auraient été quand même faites, sauf qu'elles ont coûté moins cher aux chefs d'entreprise, et donc c'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine. Et deuxièmement, enfin quand même, on a supprimé quasiment la totalité des droits de succession dans ce pays. On a mis en place un bouclier fiscal qui protège très fortement les plus riches, alors que les plus modestes sont de moins en moins protégés par notre système de protection sociale. Et quel effet sur la croissance ?
Le crédit d'impôt, nul. Par exemple, sur les crédits d'impôt sur les intérêts des emprunts immobiliers,
ça me paraît pas une bonne mesure. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce dont la France a besoin en matière de logement, par exemple, c'est un, de construire des logements, et en particulier des logements sociaux, et deux, d'enrayer la hausse des loyers qui bouffe les revenus salariaux de bon nombre de Français, en particulier des plus modestes. Alors certes, la déduction des intérêts d'emprunt, ça n'a pas vraiment permis de mettre de nouveaux logements en chantier, mais ça a allégé les impôts de ceux qui avaient déjà construit quelque chose. Et enfin, franchement, ça ne sert à rien, quoi.
Et même le truc sur la défiscalisation du travail étudiant.
Vous en connaissez beaucoup, des étudiants qui travaillent et qui en plus payent des impôts, parce qu'en général, quand on bosse à McDo ou quand on bosse dans l'intérim ou qu'on fait des boulots d'été, on n'est pas imposable. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du foutage de gueule politique.
D'accord, ça a le mérite d'être clair.
Bah ouais.
Je vous ai entendu aussi dénoncer fortement la politique d'immigration menée dans le pays. C'est quoi pour vous la solution au problème de l'immigration clandestine ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors,
régularisation, ça ?
Moi, je suis pour la régularisation tous les sans-papiers. Pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que une fois qu'on est entré sur le territoire français, une fois qu'on est venu sur le territoire français pour trouver du travail et en dépit de toutes les difficultés qui sont mises en place, et que on veut y construire une famille, y grandir, y vieillir, oui aussi, eh bien, ça sert à rien de faire la traque au sans-papiers. On va mettre des gens qui auront des enfants, parce que la plupart restent, on peut pas fliquer plusieurs centaines de milliers de personnes comme ça, qui auront des enfants et qui auront élevé leurs enfants dans des situations précaires. Alors comment voulez-vous après que les enfants puissent grandir sereinement et trouver leur place dans cette société? Mais il y a une chose quand même sur cette pression sur les sans-papiers, au-delà des aspects détestables pour les droits de l'homme, pour l'image de la France et pour ce qui se passe pour des gens qui payent par ailleurs leurs impôts en France bien souvent. C'est de voir que finalement, pourquoi on fait cette politique? Parce que depuis plus de 30 ans, le Front National dit qu'on est envahi par l'immigration et que l'immigration menacerait notre identité. Déjà d'une, je pense que d'autres cultures, ça enrichit la société française. Et deuxièmement, la part de personnes étrangères présentes sur le territoire national n'a pas bougé depuis 1975. Elle est de 8,5%. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait des flots d'immigrants qui menacent la France. Donc faut arrêter là-dessus. Et puis par ailleurs, en termes d'immigration, vous savez, moi je suis pour le droit à l'aller-retour. Pour les gens qui veulent travailler en France pendant 20 ou 30 ans, je suis pour qu'on leur dise « Ok, bah, tu viens bosser. Si tu veux retourner dans ton pays, tu y retournes, je ne sais pas, 2-3 mois par an ou même pour tes vieux jours. Et on ne va pas te courir après, te faire vivre dans la peur tout le reste du temps quand tu es sur le territoire national. »
Très bien, merci. Il est temps de passer à la chronique de Philippe et d'aller voir un petit peu ailleurs, d'aller un petit peu plus loin.
La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la Terre.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Le monde politique est fait d'amour, de gloire et de beauté. Mais loin des ordres de la République, il existe toute une foule de petits, une armée de sans-grades pour qui la politique sait surtout coller des affiches. Cette foule est faite de jeunes. Les jeunes sont rassemblés en groupes bien à part et gravitent autour de la politique comme un papillon de nuit qui se heurterait à l'ampoule du pouvoir. Tantôt icare, tantôt insecte donc, le jeune militant s'active et met des t-shirts à message. C'est un peu le stagiaire de la politique, ou plutôt le bisu. Sans passer par les classes ingrates du tract et des affiches, point de salut, point de respect. C'est comme quoi la structure politique recrée les schémas d'exploitation. D'ailleurs, tous les invités ici, vous y compris, Antoine, sont passés par là et ils ont dit que nous, on a tracté, on a collé des affiches, hein, on se les donnait à fond.
Vous avez fait ça?
Oui, mais je le refais encore demain matin. J'ai pas envie d'arrêter ça, hein, parce que je pense que ça fait partie de l'engagement politique.
Ça fait partie de l'engagement politique. Est-ce que ça donne une légitimité? Il semble que oui, hein, on est dans un diptyque bizutage légitimité, en tout cas on dirait. En tout cas, moi j'adore, je ne traque ni ne colle, mais j'adore aller dans les réunions des jeunes militants pour l'ambiance. Après tout, on y trouve une ferveur puissante qui me rappelle deux endroits, les messes JMJ et les stades de foot. Non, c'est vrai, une université d'été, par exemple, constitue un lieu de conviction, de foi réelle, ainsi qu'un formidable bésodrome pour la jeunesse, un peu comme les JMJ. Un militant est donc un croyant. Mais les militants portent aussi des écharpes, des drapeaux sacrés, ça chante, ça chahute, c'est motivé. Bref, un militant n'est pas que croyant, c'est aussi un supporter. Mi-croyant, mi-supporter, on voit tout de suite qu'on ne va pas être en face de quelqu'un de super objectif, hein, et c'est peut-être là le problème. Alors pour mieux comprendre cette facette supporter du militant, et pour être première loge des banderoles, sujet d'actualité, je suis allé au stade Vélodrome ce dimanche, dans un des virages avec les ultras. Je crains des gangs, j'étais au cœur du collectif OCN.
Alors, il faut de dingue pour cette chronique. Quoi.
Je suis un fou, moi. Alors il faut m'imaginer avec mon petit calepin Moleskine, notant scrupuleusement les chants et les insultes au milieu des fumigènes et des pogos, mais tout ça en valait la peine. Classe. J'en ai tiré quelques perles, d'autant que j'ai mis en place les tifos dans le stade 5 heures avant, c'était vraiment bien. Alors, petit florilège, on a fixé une banderole bienvenue chez les cosmopolites pour répondre, je cite, au racisme et à ces enculés de parisiens. Donc voilà, on est pas raciste, mais un petit peu. Donc dans le même genre, et ça me gêne un peu, donc là je vais édulcorer, ici à Marseille, on sodomise ces homosexuels de Lyonnais. Donc voilà, là on est homophobe.
Ça, c'était vraiment dit.
Oui, de manière un peu plus crue. Donc on est homophobe, mais on sodomise quand même. Ah, dilemme de positionnement sexuel, je dirais. Donc, je l'ai fait remarquer d'ailleurs, et je crois qu'ils n'ont pas du tout entendu mon argument. Alors, quant au chant, la fameuse banderole traitant de pédophile et de consanguin paraissait presque light. Bon, alors je passe sur le match, hein, quelques grands moments, des forêts de doigts, des insultes pas très créatives sur à peu près toutes les mères de chaque joueur. Mais au fond, tout au fond, sans ce public railleur, violent, idiot et chambreur, quel ennui dans les travées. Bon, c'est gras, c'est moche, mais c'est juste finalement deux foules qui jouent à s'envoyer des grosses vannes bien laides. Alors, de toute manière, ça peut pas monter bien haut, hein. C'est quand même des supporters de foot, on peut pas s'attendre à quelque chose de fantastique, mais on peut parler de violence et de bêtises de bon enfant, à mon sens. parfois très proche d'ailleurs de la fougue militante. Alors, va-t-on s'attaquer demain à Santini pour blague lourde, le militant pour manque de recul, le colleur d'affiche pour parti pris, le supporter pour insulte, ça devient ubuesque. Dès lors, que faire quand l'opinion s'émeut, quand ça va trop loin? C'est aux rieurs professionnels, à mon avis, de railler, de ridiculiser cette bêtise qui va un peu trop loin. Puis il y a un boulevard, hein, c'est pas très difficile. En tout cas, il ne faut certainement pas commencer à pénaliser la connerie, sans quoi, et c'est certain, nous n'en aurons pas fini avec l'engorgement des tribunaux.
Merci beaucoup Philippe et merci beaucoup Antoine Détourné d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci aussi à Elodie de nous avoir rejoint aujourd'hui.
Pour cette première.
Et puis nous on se retrouve tous la semaine prochaine, j'espère, pour la numéro 7. Salut à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.